les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Aujourd'hui, nous irons en Martinique avec un grand écrivain. Nous serons avec la fille d'une grande dame de la mode et vous découvrirez un écrivain suisse qui publie un roman étonnant. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Le Martiniquais Patrick Chamoiseau publie un récit poétique et engagé sur les traces de Glissant et de Césaire. Il porte une réflexion profonde sur la création et les valeurs qui animent son écriture. Un livre qui a passionné nos libraires. L'écrivain suisse Harry Koumrouyan raconte le parcours initiatique d'un jeune garçon à la recherche de son père. Il s'interroge sur le changement de vie. Comment une vie se construit-elle? C'est la question que nous poserons. Et puis nous recevrons Nathalie Riquiel pour un livre qui rassemble des dessins de sa mère Sonia Riquiel. Une analyse très personnelle de la maternité en ce week-end de Fête des Mères. Un ouvrage sensible qui évoque des sentiments universels. Et voici les libraires qui vont nous accompagner tout au long de ce programme. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Suisse, dans la librairie Une Petite Prose. Vacciné, paraît-il, en plus.
Oui, oui.
En pleine forme.
Oui, saine.
Katia Courteau représente le Québec. Bonjour Katia.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire, vous, à Montréal, dans la librairie Le Port de Tête. Tout va bien pour vous?
Oui, très très bien.
Bon. Bonjour Mathieu Colombe.
Et bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Aix-en-Provence, dans la magnifique librairie Goulard, qui est en travaux improvisés, hein, d'après ce que je sais, puisqu'il y a des travaux à côté de chez vous et qu'ils ont cassé un mur.
C'est ça, il y a des accidents.
C'est une belle anecdote, ça. Des livres sont tombés ou pas?
Non, fort heureusement, non. Bon. C'était dans un coin où il n'y a pas trop de bibliothèques.
Bon, bon courage à vous, vous représentez la France, bien sûr, aujourd'hui. Déborah Damblon représente, elle, la Belgique, depuis la librairie de la Licorne à Bruxelles. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
On commence tout de suite avec une anecdote personnelle de votre vie de libraire, Déborah.
Voilà, une anecdote avec des livres qui tombent, Emmanuel.
Ah,
mais bon, pour
aussi.
Bien la comprendre aussi, ouais. Il faut visualiser. Donc notre librairie, elle se trouve dans un quartier commerçant sur une chaussée avec de la circulation et le tram qui passe. Donc on ne s'y gare pas très facilement, même pour les livraisons. Et quand le dernier Harry Potter est sorti, avec, vous vous souvenez, embargo, réservation, tout ça, le camion de livraison est arrivé avec plein d'énormes cartons très lourds. Et bien sûr, il n'y avait pas de place. Et bien sûr, c'était l'heure de pointe. Et bien sûr, tout le monde klaxonnait. Alors, dans la précipitation, voilà qu'il y a un carton qui tombe sur la chaussée et qui s'éventre. Et ben là, vous auriez vu mais l'attroupement sur le trottoir et le regard concupiscent des gens. Je vous jure, c'est ce jour-là que j'ai compris ce que ça fait d'être un agneau en face du loup. Enfin, bref, on a réagi très vite, on a tout remballé et on se l'est un peu joué ni vu ni connu.
Très bien, personne n'a piqué de livre alors?
Non, Emmanuel, personne.
Personne. Très bien, merci pour cette histoire, Déborah. Merci à tous les quatre. Vous interviendrez bien sûr tout au long de cette émission.
Ma belle, wali, wali, walo, ma belle.
Zip, zap, zabab.
Ma belle, que jolie vie, yo, ma belle.
Zip, zap, zabab.
Ma belle, oui, que jolie manière, ma belle.
Zip, zap, zabab.
Ma belle, dansez là, ma belle, ma maïla.
Zip, zap, zabab.
Ma belle, payez-vous la façon, ma belle.
Zip, zap,
zabab. Ma belle, payez-vous l'opé.
Et bonjour Patrick Chamoiseau.
Bonjour.
Sur cette musique du Bel Air que vous avez choisie, musique de la Martinique jouée à l'époque par les esclaves, vous êtes avec nous depuis les studios de Martinique Première, dont je salue la géniale équipe qui a toujours été aux côtés de la librairie francophone avec une grande bienveillance. Merci à eux. Comment ça se passe pour vous du côté de Fort-de-France en ce moment, Patrick?
Eh ben, ça se passe bien. On a eu une très grande période de sécheresse et là, on a un peu le retour de la pluie.
Oui.
Et
oui.
Comme je suis un homme de la pluie, je suis très content.
Parfait. Bon, ben, profitez-en. Vous publiez Le Compteur, la nuit et le panier aux éditions du Seuil. Une réflexion autour de la création qui s'appuie en partie sur les textes et les engagements d'Édouard Glissant et d'Aimé Césaire. Vous commencez ce livre en affirmant dès la première phrase que l'écrivain est un artiste. Quel genre d'artiste êtes-vous?
Oui, c'est un artiste dans la mesure où il s'occupe de produire des formes à partir d'un matériau qui est la langue. Et c'est pourquoi un écrivain ne peut pas être face à la langue qu'il utilise, ne peut pas avoir de sacralisation, ni rentrer dans, je dirais, je ne sais quelle idéalisation de la langue. L'écrivain ne peut être que désirant de toutes les langues du monde, c'est-à-dire essayer de mobiliser dans ce qu'il va produire la présence de toutes les expressions possibles.
Oui, c'est ça.
Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est moins le style que le langage. Le style fait chanter la grammaire d'une langue, le style c'est un peu la célébration d'une langue, alors que le langage, c'est un peu, je dirais, le syndrome Rabelais. Le langage fait exploser la langue et appelle toutes les langues du monde.
Voilà, c'est ça qui fait votre singularité, hein, notamment chez vous, parce que vous envisagez l'écriture comme un chant, un art qui peut aussi puiser dans d'autres disciplines culturelles qui habitent des langages, pas seulement une langue, vous venez de le dire. Et vous en faites la démonstration. Votre récit est au croisement du roman, de la poésie et de l'essai. Vous faites danser les mots et vous faites danser votre esprit aussi, un peu, Patrick.
Oui, je crois que... Mais c'est bien lorsqu'on écrit d'essayer d'échapper à la langue. Il faut être à la fois avant la langue et après la langue. Et avant la langue, qu'est-ce qu'on fait? On dessine, on chante, on perçoit des odeurs, des saveurs, on a des frissons, on a des sensations. Et on est véritablement dans un dispositif d'expression qui n'est pas purement lié à un lexique ou un alphabet. Mmh. Et ça, c'est très important. Il faut commencer par dessiner dans les phrases, quoi. Une phrase, c'est d'abord un dessin, c'est un rythme, c'est une couleur.
Ouais.
C'est un frisson.
C'est vrai que c'est un frisson, et il y en a des frissons chez vous. Vous rappelez la langue dominée aussi, la langue dominante. Puis il y a des injustices, alors il y en a plein, hein, des injustices pour le coup avec la colonisation, mais il y en a une particulière qui vous a marqué quand vous êtes enfant, parce que dans cette bibliothèque, à l'architecture improbable, hein, pour ceux qui sont venus à Fort-de-France connaissent, hein, la bibliothèque Schœlcher, qui a vraiment un bâtiment très colonial, placé au milieu de la ville, face à ce qu'on appelle la savane en face, et c'est très bizarre comme immeuble. Et il y avait une vieille armoire grillagée qui rassemblait, elle, les livres concernant les Antilles. Parce que vous cherchez des livres qui parlent des Antilles, et là on se dit que même la bibliothèque, en fait, même là-bas, on entravait la culture créole.
Ah oui, c'est-à-dire que la pensée coloniale était dominante, et toutes les bibliothèques du monde, d'une certaine manière, ont été pendant longtemps très largement coloniales. Mmh. Ce qui fait que mon accès à l'écriture et mon accès à la bibliothèque, à l'idée même de bibliothèque, était organisé par, la pensée coloniale. Ce qui fait que tout jeune, lorsque j'ai commencé à lire, très rapidement, mon imaginaire a été déporté vers une réalité qui n'était pas la mienne.
Eh oui.
Ma réalité, c'était les quatre saisons, la neige, les peupliers, enfin bon, tout un univers
vous dites,
européen.
Ma tête habitait en France, avec ces lectures.
J'habitais en France, et puis alors que j'étais entre des manguiers, des cocotiers, des moustiques, etc., etc. Donc c'était véritablement une autre réalité. Donc je pars à la recherche de livres qui parlent de ma réalité, et j'arrive à la bibliothèque Schœlcher, et là il y a un vieux conservateur qui était dans son petit bureau poussiéreux, et derrière lui il avait une armoire fermée à clé. Et il me dit, si tu cherches des livres sur les Antilles, ils sont tous là-dedans. Il y en avait très peu, mais la moire était quand même remplie, et il m'a donné accès à ce trésor. Et c'était comme la conquête d'un trésor que de trouver des livres qui parlaient des Antilles et qui parlaient de mes réalités.
Ouais.
Mais là encore, c'était la plume coloniale qui organisait les récits.
Oui, c'était sélectionné, c'est ça. Alors l'écriture doit être créative, tout le monde sera d'accord, mais elle est aussi influencée par le contexte de la vie des écrivains. C'est ce que vous dites. Aux Antilles, il y a toujours eu, depuis l'esclavage, ce que vous nommez des calamités. À commencer par les calamités naturelles, les cyclones, les tremblements de terre, tsunamis et autres volcans. Et ces calamités, vous dites qu'elles génèrent d'une certaine façon une régénérescence. Quand on a vécu une calamité, on renoue avec la vie de façon plus intense, plus vigoureuse.
Oui, oui. Alors dans les contréoles, il y a des calamités. Alors les calamités sont très fréquentes dans la mesure où elles permettent à l'esclave de prendre conscience de sa situation. Donc la calamité dans l'imaginaire du conte créole, c'est quelque chose qu'on ne parvient pas à dépasser, hein, qui est presque permanent. En revanche, il y a les catastrophes. Et la catastrophe, elle, c'est vraiment un bouleversement intégral de toutes les données de moments quelconques, et qui permet un bouleversement. Si, par exemple, un cyclone vous réduit vraiment à rien et qu'il n'y a pas eu de sursaut, le cyclone est une calamité. Mais si le cyclone, comme pour ma mère, il arrive, il crée des inondations, il renverse un peu l'ordre établi, lorsqu'il y avait un cyclone, ma mère avait une espèce de créativité de survie qui était absolument incroyable. Ouais. Et là, elle trouvait de quoi nous donner à manger pendant des semaines. Donc, il y a dans la catastrophe une capacité à renouvellement, un appel à oxygène qui est absolument important. Voilà. Et c'est là que j'ai compris qu'à la base d'une création véritable, c'est-à-dire que lorsque l'artiste, pour qu'il puisse véritablement sortir de sa réalité et faire un bond dans l'inconnu, donc un bond véritablement dans un processus de création, il faut qu'il installe dans sa page une catastrophe.
Voilà, et c'est valable aussi pour la nature, hein. Par exemple, quand il y a un grand feu, eh bien, la nature se régénère de façon différente, avec des arbres qui réapparaissent, des oiseaux qui réapparaissent. C'est Boris Cyrulnik qui nous racontait ça il n'y a pas si longtemps ici. On va laisser la place à nos libraires, Patrick Chamoiseau, avec tout d'abord la France et Mathieu Colombe qui a lu votre livre. Mathieu.
Oui, effectivement, et c'est toujours un plaisir de retrouver Patrick Chamoiseau. Bon, en même temps, c'est aussi toujours aussi éprouvant d'en parler, parce qu'en si peu de temps, arriver à décrire la magnificence de l'écriture, la profondeur du propos, ou encore parler de cette immense générosité du texte, il me faudrait au moins une demi-heure pour commencer à dire tout le bien que j'en pense. Et je n'en suis qu'à ma première lecture.
Bon, vous reviendrez, tous les deux. Allez, le Canada, Katia Courteau.
Ah ben écoutez, c'est pareil pour moi. Patrick Chamoiseau, vous êtes une catastrophe lumineuse. Vous avez été l'une de mes rencontres littéraires les plus marquantes, déterminantes, et vous retrouvez dans cet essai est une fois de plus de l'ordre du bonheur. Vous maniez si subtilement, vraiment, le langage que vous arrivez à glisser du politique au poétique, du langage à l'histoire, du récit à la culture. Permettez-moi de reprendre vos mots et de vous remercier pour une fois de plus ce magnifique don oblique.
Eh ben, merci. Bien. Allez, la Suisse avec Dominique Bressoux, êtes-vous d'accord?
Ah oui, complètement.
Ah ben,
alors, il y a des livres, vous voyez, qui peuvent faire changer une vie, ou au moins lever un coin du voile sur les mystères qui nous occupent. Mmh. Et le livre de Patrick Chamoiseau, c'est ça. Je n'avais jamais rien lu jusqu'à présent qui éclaire de façon aussi brillante le processus de création. La langue peut sembler complexe au départ, mais très vite, on se retrouve disciple attentif et admiratif comme les suiveurs de conteurs. Pour moi, c'est un livre à lire lentement, incarner ou prendre des notes à la main, une pure merveille.
Voilà, vous avez fait l'unanimité. Ça le fait rire,
merci,
Patrick Chamoiseau.
Merci beaucoup.
Alors, il est question d'Aimé Césaire et d'Edouard Glissant, Patrick, qui ont été, selon vous, les relais de ces conteurs, les conteurs dont vous parliez tout à l'heure. Aimé Césaire s'emparera du mot nègre, la plus basse insulte, pour la sublimer sur le plan littéraire et artistique avec la négritude. Césaire pousse un cri, alors que Glissant, lui, va construire une parole collective. C'est la différence entre les deux. Quelle est-elle, cette différence, Patrick?
C'est-à-dire que Césaire est poète et Glissant, il est... je ne sais pas s'il faut des romanciers.
Il est un peu
tout,
ouais.
Il est poète aussi, ouais. Mais il pratique plutôt une poésie en étendue. C'est-à-dire que sa poésie, elle est tellement en relation avec le vivant qu'elle touche aux sciences humaines, qu'elle touche à la philosophie, qu'elle touche à tout ce qu'on peut imaginer. Ce qui fait que c'est véritablement une poésie en étendue. Alors que Césaire est plus dans une pratique poétique au sens où on peut l'entendre habituellement. Alors, ce qui est puissant chez Césaire, c'est qu'il va pousser le cri, le grand cri, ce qu'il va appeler le grand cri nègre, qui va donner naissance à l'esthétique de la négritude. Et ce cri, il pourra le pousser dans l'enfer du colonialisme. C'est-à-dire qu'il écrit ce texte dans les années 30, et au moment où la Martinique est une colonie de canne à sucre, avec une réalité sociale, humaine, politique absolument catastrophique, il n'y a absolument aucun oxygène, ni pour la pensée, ni pour la création. Et quand il n'y a pas d'oxygène pour la pensée ou pour la création, je dirais le tressaillement poétique est absolument essentiel. Il faut, comme on ne sait pas parler, on ne peut pas parler, on est étranglé d'une certaine manière, on peut crier. On est étranglé, on peut crier.
Oui, oui.
Ce qui fait que Césaire, il va, par le cri de la négritude, il va d'une certaine manière refuser à la fois la déshumanisation colonialiste, l'atteinte portée à l'Afrique, il va renverser la plupart des termes de la domination, mais il va ouvrir la voie à une création création qui sera différente. Alors, autant le cri est précieux pour, d'une certaine manière, un peu comme la foudre de l'orage éclaire le paysage, une fois que le paysage est éclairé, une nouvelle poésie peut cheminer. C'est celle de Glissant qui va articuler une parole.
Alors, Édouard Glissant, on va parler de la créolisation pour terminer, Patrick Chamoiseau, parce que vous avez une définition de la créolisation qui m'a un peu interpellé. On va d'abord écouter Édouard Glissant en parler. C'était au micro de la librairie francophone en 2010. Est-ce que vous pensez que le monde, justement, est sur le chemin de la créolisation, du mélange des langues et des cultures ?
Absolument. Et la preuve, c'est que partout où cette créolisation, ce mélange des cultures, mais qui n'est pas une bouillabaisse, qui n'est pas un mélange absurde où les cultures se perdent, cette diversité qui est en même temps une unité d'une certaine manière, mais pas une unité fermée, pas un enfermement. Partout dans le monde où ça se fait, il y a des volontés farouches d'enfermement qui prennent ces lieux comme cible. Partout où il y a créolisation, que ce soit à Sarajevo, à Beyrouth, à Port-au-Prince, à la Nouvelle-Orléans, partout où il y a eu créolisation, ou bien on prend comme cible ces endroits pour les massacrer, ou bien on les laisse pourrir dans le sous-développement et la catastrophe. Et c'est bien le signe qu'on a peur. Dans le monde, les pensées uniques ont peur de ce phénomène de créolisation de mélange qui est, à mon avis, en marche et irrépressible.
Voilà la définition de la créolisation par Édouard Glissant. Patrick Chamoiseau, alors vous vous dites qu'il faut entendre par le mot créolisation, je cite, « une mise en contact brutale, massive, accélérée, imposée ou consentie, subie ou sublimée, stimulante ou meurtrière des cultures, des civilisations et des individus ». Vous la dépoétisez un peu, cette créolisation, Patrick Chamoiseau. C'est aussi l'échange. Pourquoi vous y voyez forcément de la brutalité, vous ?
C'est-à-dire que le fourguier de la relation, malheureusement, a été la colonisation européenne. C'est à partir de là que les civilisations et toutes les accélérations et toutes les voies de communication se sont mises en place sous les auspices de l'esprit colonial. Et jusqu'à aujourd'hui, même le monde à mondialisation économique est très habité par l'esprit colonial. À partir de là, la violence a dominé, le génocide a dominé, le refus du métissage a dominé.
D'accord,
même
dans ce contexte,
malgré tout, il y a cette partie souffrante de la mise en relation. Mais il y a l'autre partie qui est inattendue, qui est imprévisible. Les individus se retrouvent, des cultures qui sont en contact vont générer des dynamiques culturelles absolument incroyables. Par exemple, le plus bel exemple, c'est que dans les plantations esclavagistes vont apparaître des musiques absolument déterminantes pour le monde contemporain. Le jazz, le reggae, la biguine, etc. Donc il y a ces deux parties-là, la partie sombre et la partie lumineuse.
D'accord.
Mais il ne faut pas avoir une approche moralisante. La relation n'a pas de morale. Il peut se produire le pire comme le meilleur. Vivre en relation, c'est pas vivre en communauté. Vivre en communauté, c'était ma langue, mon Dieu, ma peau, mes amis qui me ressemblent, etc. Vivre en relation, c'est vivre dans une sorte de processus d'individuation qui se confronte en permanence à la fois à des expériences individuelles et à des expériences collectives, qu'elles soient culturelles ou civilisationnelles. C'est vraiment une réalité très, très, très difficile.
Bon, merci beaucoup d'avoir répondu concrètement. Merci Patrick Chamoiseau, merci infiniment. Okay. J'espère qu'on continuera.
Bientôt.
Oui, cet entretien, il y a plein de choses à dire avec vous. Et comme le disait notre libraire, on pourrait rester une heure, voire deux heures avec vous. Et on fera un jour, je vous le promets, une émission avec vous en Martinique.
Avec
vous,
plaisir.
L'espère, dès qu'on pourra. Merci Patrick Chamoiseau.
À bientôt.
À bientôt. Le compteur, la nuit et le panier est paru aux éditions du Seuil. À suivre, la relation mère-fille entre Nathalie Riquel et sa mère défunte, Sonia Riquel, dans un livre original qui porte une réflexion intime sur ce lien. Avant cela, voici le nouveau titre de Roméo Elvis dans la librairie francophone.
Je suis jamais à l'aise dans les cocktails, la foule des villes à gravité. La musique m'emmène loin du bordel, le feu de Johnny Hallyday. Rien ne serait pareil sans toi, pourquoi t'as peur que je t'oublie? Je pourrais croiser des centaines d'entre elles, les yeux bandés, je t'en trouverai quand même. Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter? Tout peut arriver, tout peut arriver. Le rien n'est grave. J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais
je crois que j'ai pas fermé l'œil. Juste au cas où, si t'étais seul, t'aurais dû m'appeler. Tout peut arriver, les rien, les graves. Tout peut arriver. J'arrive pas à descendre, le stress m'étrangle. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. Et le diable serait comblé. Sentiment étrange, c'est comme si on dispersait mes cendres. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. La fin de la prophétie se complète. J'arrive pas à descendre, le stress m'étrangle. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. Et le diable sourit comblé. Sentiment étrange, c'est comme si on dispersait mes cendres. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. La fin de la prophétie se complète. Les minutes qu'on va passer ensemble, c'est cool, on vit tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter? Tout peut arriver. Tout peut arriver. De toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter? Tout peut arriver.
C'était le chanteur belge Roméo Elvis avec TPA.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Canada,
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Nathalie Riquel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La librairie francophone est fidèle à la famille Riquel. Vous le savez, nous avons reçu votre maman Sonia Riquel plusieurs fois avant sa mort en 2016. Il y a 5 ans déjà qu'elle nous a quittés. Vous publiez en ce printemps et en ce week-end de Fête des Mères un petit livre à la couverture toilée qui rend justement hommage en partie à votre mère. C'était une bonne maman, Sonia Riquel.
Une bonne maman, c'est pas du tout le genre de terme que dont je la flubberais. Non, c'était une maman, ouais. C'était une femme exceptionnelle et c'était une mère qui sortait totalement de l'ordinaire et absolument exceptionnelle. Une bonne maman, non, je sais même pas ce que ça veut dire une bonne maman.
Oui, c'est quoi une bonne mère selon vous, Nathalie?
Eh bien, moi je suis pour le concept de la suffisamment bonne mère.
C'est-à-dire?
La suffisamment bonne mère, c'est une théorie qui a été développée par un psychiatre qui s'appelle Donald Winnicott et qui explique, et c'est un grand soulagement pour le sentiment de culpabilité terrible qui étreint toutes les mères, parce qu'elles ont toujours le sentiment de faire mal, ou dès qu'un enfant va mal, c'est de leur faute, etc. La suffisamment bonne mère, en fait, Winnicott explique qu'il faut laisser de l'espace à l'enfant. On ne peut pas répondre à toutes ses demandes. On ne peut pas être parfaite et que c'est comme ça que l'enfant se construit des manques.
Avec des manques, oui. Vous écrivez, voilà. Tu étais une mère imposante, omniprésente, mais aussi terriblement attirante. Tu étais jalouse et possessive. Toi, la femme la plus libre que je connaisse, tu ne m'as pas donné la liberté.
C'est vrai.
Et dans le travail non plus, vous le dites, Nathalie Riquel, elle ne vous a pas donné le pouvoir.
C'est absolument vrai. Elle faisait tout pour que je reste auprès d'elle, que je n'aille surtout pas ailleurs. Donc elle me donnait forcément tout ce dont j'avais besoin, mais le pouvoir ultime dont j'ai eu besoin à un moment donné en tant que présidente de Sonia Riquel,
oui.
Parce que malheureusement dans l'esprit des gens c'est important, les titres, etc. Elle ne voulait pas le céder. Et donc,
C'est-à-dire elle prenait la main, elle gardait la main en tant que Sonia Riquel.
Voilà, mais surtout...
Vous étiez le bras droit, quoi.
Voilà, elle voulait que je sois le bras droit. Oui. Or, on était intime, on était vraiment pendant des années. Au départ, c'est vraiment elle qui a fondé sa société, qui l'a créée. Mais au fil du temps, je suis devenue plus qu'un bras droit. Je suis devenue présidente de la maison, etc. Et donc, on a travaillé ensemble, sans jamais d'ailleurs naviguer sur les mêmes territoires. Et en fait, elle m'avait dit cette phrase, elle m'avait dit « Le pouvoir, tu sais, ça se donne pas, ça se prend.
Oui. » Vous
avec un air
d'ailleurs.
De défi, comme ça. Et en fait, je l'ai pris, mais avec énormément de tendresse et de précaution, parce que c'était mon grand amour, ma mère, et je voulais pas la blesser.
Oui, c'est ça. Vous dites, j'avais le choix de partir et de rester. Bien sûr. Et vous avez choisi de rester. Et ça, ouais. C'est un acte d'amour. Et c'est comme ça que vous avez pris votre liberté, vous l'expliquez dans le livre, en restant. On ne va pas tout dire, mais dans ce livre, Nathalie Riquel, il y a plein de dessins de votre mère qui s'adressent à vous avec des questions comme par exemple « Viens me voir » ou « Je vais au marché, tu veux ?» Elle vous les laissait où, ces messages ?
J'en trouvais sur mon bureau quand j'arrivais le matin. Je pouvais en trouver dans ma valise si je partais en voyage. Fais attention. J'en trouvais. Au fil du temps, si vous voulez, elle m'en a semé absolument partout. Ouais. Et donc, je les regardais avec un « Tiens, elle est passée ». Et puis, je les mettais sur le côté comme ça. J'étais pas du tout... dans la fascination de l'œuvre, du dessin. Non, c'était sympa, c'était ma mère qui était passée, qui m'avait fait un clin d'œil, qui m'avait laissé un mot. Tu déjeunes avec moi, point d'interrogation, etc. Et puis que je les laissais quand même, évidemment, tous garder.
Voilà, donc ils sont dans ce livre en grande partie. C'est vrai qu'elle dessinait beaucoup. On était allé chez elle en 2011 et elle nous avait parlé de ses dessins. Écoutez.
Je vois sur votre table plein de crayons comme cela. Vous aimez beaucoup les crayons d'ailleurs avec une gomme au-dessus. Plein de feutres aussi.
J'aime beaucoup les crayons avec une gomme au-dessus, mais je dessine tout le temps, j'écris tout le temps. J'ai toujours plein de papiers autour de moi, avec plein de choses. Vous voyez, il y en a partout.
Plein de dessins aussi. Il y a
énormément de dessins.
Des dessins avec, par exemple, une grande écharpe rayée, une femme avec une rose à la main. Ce sont deux de vos symboles. Est-ce que vous griffonnez un dessin à tous ceux que vous aimez bien ?
Ça dépend des fois. Je ne donne pas de dessin à tout le monde. D'abord, je pense qu'il y en a dès que ça ennuierait. Mais sans ça, on me réclame souvent des dessins. Donc, je les donne.
Elle date de quand, cette...
2011.
Parce que je la, c'était déjà, elle était, vous savez, elle a été très malade.
Oui, elle était très malade.
Sa voix est déjà, et même son élocution.
Exact.
Alors que c'est une femme qui s'exprime merveilleusement.
On l'a eu dans cette émission avec une élocution différente.
C'est terrible pour moi d'entendre ça, en fait, parce qu'elle est très déjà.
Mais elle est très touchante. Elle était sublime ce jour-là, je me souviens.
De toute façon, ma mère, dès qu'il y avait un homme, elle était sublime.
Ah, c'était ça ?
C'est une grande séductrice.
On me le dit maintenant.
Ah bah, trop tard.
Oui, c'est trop tard.
Mais non, c'était une grande séductrice. Et d'ailleurs, voilà, la vie, c'était une forme de séduction pour elle. Et j'ai toujours trouvé ça tellement drôle et intéressant. Mais là, de l'entendre comme ça, c'était vraiment... Elle était déjà très, très malade.
Il y a des dessins, donc, Nathalie Riquel, dans ce livre, et beaucoup de petites phrases, comme des réflexions, comme des instants philosophiques. « Non, je ne ferai plus attention, maman. Ça a servi à quoi ? Faire attention, c'est avoir peur. Et la peur ne sert à rien, sauf à avoir peur de tout. » Vous êtes battue contre ça ?
Beaucoup. Beaucoup. Je suis moi-même très anxieuse. J'avais une mère très anxieuse. Et je pense qu'une des batailles de la vie, c'est de vaincre ses peurs pour pouvoir avancer, absolument. Et c'est quelque chose que je répète souvent à mes filles.
Oui. Vous leur dites, fais attention à toi, à vos filles,
non.
Comme vous le disiez ?
Non. Non. J'ai plus le droit de dire, ni fais attention, ni c'est un problème. Nous sommes dans le positif.
C'est bien, c'est bien. Alors le positif, avec des recettes aussi. Nathalie Riquel, il y a une recette, la mousse au chocolat, que vous détaillez.
The recette.
Enfin, c'est
la recette. Ça vaut de l'or, quand même.
La recette. Ça vaut de l'or, et vous dites à la fin, il vous suffira de dire que c'est ma recette. C'est la recette de Nathalie Riquel. Et puis, il y a le menu réconfort du dimanche soir.
Je vous interromps, parce que c'est la recette de ma mère.
Oui, en plus.
Que j'ai évidemment transposée, et comme elle, je m'amuse à mentir, parce qu'elle, elle a menti toute sa vie, et moi, je mentais pas, et donc je dis, dites bien que c'est ma recette.
Ben voyons. Alors, le menu réconfort du dimanche soir, avec notamment les pâtes au thon. Vous les faites comment, les pâtes au thon, Nathalie ?
Les pâtes au thon, c'est sublime.
Allez-y, vite fait.
À dire comme ça, on se dit, ouais, ça doit être lourd.
Non, c'est génial quand c'est bien fait. On va voir si vous êtes bien.
Alors, vous faites revenir des oignons dans une casserole.
Oui.
D'accord ? Vous mettez de l'huile d'olive.
Oui.
Vous mettez des tomates entières pelées que vous écrasez pour qu'il n'y ait pas trop de... Ça reste pas compact. Du Worcestershire sauce. Worcestershire sauce.
En français, ça donne quoi ?
Ben, c'est de la sauce Worcestershire.
C'est de la sauce anglaise.
Oui,
c'est ça.
Franchement, vous êtes terrible. Et vous mettez aussi donc du Worcestershire sauce.
Oui.
D'accord ? Un tout petit peu de viandox, vous vous rappelez du...
Oui, oh là là, oui, vraiment.
Bon, un tout petit peu, une demi-cuillère.
Mm-hmm.
Et vous laissez un peu, vous laissez réduire.
Mm-hmm.
Et après, au dernier moment, vous ouvrez une boîte de thon. Que vous mettez, tout émietté, et vous laissez cuire encore un tout petit peu. Vous faites vos pâtes, et alors là, absolument indispensable, des pénérigate ou des pipérigates à la rigueur, mais rien d'autre, d'accord ? Al dente, évidemment. Mmh. Et vous jetez votre sauce dans vos pâtes. Et je peux vous dire que les pâtes au thon, c'est vachement bon.
Voilà, c'est très bon. Effectivement, c'est une recette originale avec le Worcestershire sauce. Par exemple.
Ouais. Oh là là.
Bon, vous écrivez, Nathalie Riquel, la liberté que ça donne de se moquer du regard des autres.
Ouais.
Vous y êtes parvenue, ça ?
J'y parviens. Oui, c'est pas facile, mais c'est à la fois une leçon de ma mère, ça. C'est parce que dans ce livre, en fait, ce n'est pas un dialogue, mais je raconte qui je suis devenue, comment je suis devenue, avec une mère aussi incroyable, imposante.
Excentrique. Avec...
excentrique et en même temps omniprésente, dévorante.
Ouais.
Et donc, oui, la liberté que ça donne de se moquer du regard des autres, c'est-à-dire qu'on est tellement dans le regard des autres, on est tellement dans le jugement des autres et tout, et à partir du moment où on arrive à s'affranchir de ça, on devient complètement libre. Mmh. Et libre de quoi ? D'être soi-même. Et moi, ce qui m'intéresse dans la vie, dans mes écrits, dans mon travail d'écriture, c'est d'aller au plus profond de l'intime et de la sincérité. Mmh. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui me touche, c'est ce qui m'intéresse.
Il y a des petites histoires assez drôles, Nathalie Riquel. Vous avez retrouvé, par exemple, une lettre de Roland Barthes dans les affaires de votre maman. Vous racontez dans votre livre cette histoire.
Oui, j'ai retrouvé au fond d'un tiroir, enfin je classais ses affaires, etc. Donc j'ai trouvé des lettres et tout. Et puis je vois une lettre de Barthes, cher ami, etc. Roland, je crois qu'il n'avait pas pu venir à un défilé ou je sais plus quoi, etc. Donc avec l'adresse et tout. Et je me dis quand même, elle est gonflée de laisser ça. Vous me direz qu'il y avait des lettres d'Hélène Cixous, il y avait des lettres de... Enfin, il y avait des belles lettres.
De tout le monde, oui.
Mais bon, je vois la lettre de Barthes comme ça, je la retourne. Je me dis, moi, la lettre de Barthes, je l'encadrerai.
Oui.
Je retourne la lettre, et qu'est-ce que je vois au dos ? Sa liste de courses. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et j'ai pris la lettre de Barthes, j'ai pris l'enveloppe, et je l'ai fait encadrer pour une de mes filles.
Ben oui. Mais c'est ça, Sonia Riquel. C'était
bien
ça.
Bien sûr, c'est ça.
C'était ça, la femme déglinguée, comme elle le disait.
Exactement.
La démode, hein, ça commençait par là.
Oui,
tout
absolument.
A commencé là.
Ouais.
Vous dites aussi, tu n'es pas ce qu'on appelle une mère exemplaire. Tu n'as jamais rien sacrifié pour moi. Tu es bien plus intelligente que ça. Ce que tu m'offres, c'est la certitude d'un amour éternel.
C'est vrai. Ma mère mettait, c'est une femme libre, elle mettait vraiment un point d'honneur à ne rien sacrifier de sa vie de femme, de sa vie de travail, pour ses enfants qu'elle adorait, mon frère et moi. Et c'était parfois pénible, en tant qu'enfant, c'était parfois pénible. Mais en réalité, ce qu'elle nous a donné à chacun, c'est cette certitude de son amour. Et en fait, je pense que c'est très compliqué d'élever des enfants, et je pense que ce qu'on peut donner à ses enfants... c'est essayer de leur donner un sentiment de sécurité, ce qui est de plus en plus difficile à faire dans le monde dans lequel on vit. Et le sentiment de sécurité passe par l'amour.
Eh oui, que par là d'ailleurs. Ouais.
Je crois. Les gens qui ne savent pas aimer ou qui sont malheureux sont souvent des gens qui ont été mal aimés par leurs parents.
Oui, c'est vrai. Alors, ce week-end de fête des mères, Nathalie Riquel, on offre souvent des parfums. Et vous dites que le parfum d'une mère, c'est sacré. Si une autre le porte, c'est comme si elle l'avait volé. Qu'est-ce qu'elle portait comme parfum, Sonia Riquel ?
Alors, ma mère, elle a porté d'abord son parfum, qui s'appelait Septième Sens, et puis elle a porté Macassar de Rocha.
D'accord.
Pendant un certain temps.
Et Chanel numéro 5, c'est qui ? C'est vous ?
Chanel numéro 5, c'est moi.
D'accord.
Ouais.
Bon, vous l'avez toujours ?
Non, moi je suis très infidèle en parfum, donc là je suis plus du tout en Chanel numéro 5.
Vous êtes en quoi ?
Là, actuellement, je suis en Dior.
En Dior, parfait.
Cher ami, Granville.
Ah bah oui, oui. Avec, vous savez qu'il y a la maison Dior à Granville, qui est sublime.
Évidemment.
On avait fait un reportage pour la librairie francophone là-bas.
Ah, absolument. Mais c'est une eau qui m'accompagne, qui est un peu comme un talisman, et voilà, que j'adore et qui est très légère.
Bon, on revient après la pub avec la suite de notre émission. Merci beaucoup Nathalie Riquel. Talisman à l'usage des mères et des filles est paru chez Flammarion. C'est un très joli livre, vraiment. Achetez-le et ce sera un beau cadeau aussi. Merci pour votre fidélité Nathalie.
Merci Emmanuel.
À très bientôt, on passe au coup de cœur et au coup de gueule des libraires.
La librairie francophone.
Allez, un coup de gueule en Suisse avec Dominique Bressou.
Oui, enfin, c'est plutôt une remarque en passant. Parce que les livres écrits en grands caractères sont non seulement utiles aux malvoyants, mais aussi aux personnes âgées. Elles ont souvent abandonné le livre de poche parce que quand les caractères sont pas microscopiques, c'est le papier tellement fin qu'on peut lire recto et verso en même temps. Alors, il y a les tablettes, mais à part leur utilité pour les voyageurs, c'est l'équivalent d'un sandwich en face d'un bon petit plat.
Mmh.
Oui, mais voilà, les livres en gros caractères, c'est le double du prix des livres projetés.
Eh oui.
Et ils ne sortent qu'une partie infime titres du moment. Et moi, je trouve ça dommage.
C'est vrai, vous avez raison. Merci pour ce coup de gueule, Dominique. En Belgique, c'est un coup de cœur, Déborah Damblon.
Oh oui, Emmanuel. Je suis sûre que vous, comme moi, vous avez envie de soleil, de douceur, de vacances, de beauté. Peut-être d'un brin de nostalgie et d'un regard aigu sur la vie, je vous connais.
Et pour ça, c'est Corinne Hooks.
Voilà, c'est Corinne Hooks. Et elle nous emmène à Uzès avec un livre. Oui. Un livre délicieux, un livre délicat. C'est un recueil de poésie, mais c'est de la belle poésie. C'est charnel, c'est incarné. Tout Uzès est là dans un livre magnifique. Et par les temps qui courent, la lumière, vraiment, c'est essentiel.
C'est vrai, mais ça vient à la lumière, Déborah, vous allez voir. Tout va bien se passer.
Je suis en Belgique, Emmanuel.
Oui, mais je sais, mais je à Bruxelles, rappelle. Parfois, il y a des journées lumineuses magnifiques. J'en ai vécu des magnifiques. Alors, arrêtez avec ça.
Moins qu'à Uzès.
Moins qu'à Uzès, allez. Uzès ou nulle part, aux éditions Le Cormier de Corinne Hooks. Donc, merci, Déborah. Un autre coup de gueule au Canada, Katia Courtois.
Oui, un coup de gueule qui a déjà été fait, mais qu'il faut refaire encore une fois et toujours. Tant que les consciences écologiques dans le monde de la distribution du livre ne seront pas éveillées, il faudra en parler, car il n'y a pas de changement véritable. Encore une fois cette semaine, j'ai reçu une boîte chargée de seulement deux petits catalogues d'éditeurs dans une boîte presque vide. Alors, je ne suis pas d'accord.
Oui, mais c'est vrai que ça arrive aussi pour les livraisons. Hein. Tout ce qu'on commande sur Internet, parfois les cartons sont démesurés par rapport à ce qu'il y a dedans. Il faut faire quelque chose.
C'est ça.
C'est ça. Merci Katia. Enfin, un coup de cœur en France, Mathieu Colombe.
Oui, et on va parler de « Comment devient-on raciste ?», qui est une petite bande dessinée tellement bien pensée, intelligente, que je me devais d'en parler ici. Ne vous attendez pas à des larmoiements ou à des positions de martyr, mais à avoir une vraie volonté de comprendre et faire comprendre certains mécanismes sociaux et leurs effets. Indubitablement, c'est un ouvrage qu'il faut mettre entre toutes les mains, que l'on soit victime de racisme ou pas, tant il explique et tant à faire réfléchir. D'ailleurs, je me suis même rendu compte que même si on pense ne pas l'être, on en véhicule quand même parfois l'espoir. Bref, de vos têtes blondes à vos aïeux en passant par vous-même, il faut lire ce livre.
Tout est énervé aujourd'hui, Mathieu. Mais en même temps, avec un livre comme ça, c'est sûr. Allez, comment devient-on raciste aux éditions Casterman? Salutaire donc, hein, rassurez-nous.
Ah oui, tout à fait.
Ok. Merci à vous, Mathieu. À suivre l'écrivain suisse Harry Koumrouyan dans la librairie francophone. Avant cela, voici les Amazones d'Afrique avec Angélique Kidjo, Mamani Keita et Mariam Doumbia, entre autres. C'était des Amazones d'Afrique avec Amazon Power dans la librairie francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Le dessinateur belge Isler publie en ce mois de mai l'intégrale de ses cahiers autour de Charles Baudelaire à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. Il était dans la version télé de la librairie francophone en présence de Jean Tellet. Un entretien à retrouver dans la dernière émission de la saison sur RTBF La 3 en Belgique, RTS 2 en Suisse, ici RTV au Canada et partout dans le monde sur TV5 Monde. Voici pour vous et pour la radio un extrait avec Bernard Isler.
Sambre, bidouillée violette ou encore le ciel au-dessus de Bruxelles, c'est lui. Bonjour Bernard Isler.
Bonjour.
Vous publiez des cahiers dessinés en édition limitée et vous reflétez bien la noirceur du personnage et surtout sa sexualité débridée, extrême, violente aussi.
Bah, disons que l'idée était de faire une biographie romancée de Baudelaire, mais racontée par le regard de Jeanne, la Vénus noire qui est sa muse, et qui va raconter Baudelaire d'une manière sans doute imprévue et contredire tout à fait ce que vient de dire Jean. C'est-à-dire que le plus grand amour de Jean, le plus grand amour de Baudelaire n'était pas sa mère, mais c'était la Vénus noire.
Voilà. Je suis plutôt d'accord avec Jean, parce que quand on voit l'histoire de Baudelaire, il y a quand même cette histoire très particulière avec la mère, mais la grande obsession de Baudelaire, c'est Jeanne, une femme plantureuse, une femme noire, ça va choquer sa mère, évidemment, à l'époque, le racisme latent fait que Baudelaire provoque aussi. Bien sûr, oui. Et Baudelaire provoque sa famille, évidemment, avec cette histoire. C'est un homme misogyne, vous dites.
Il a dit de Jeanne Duval un beau truc. Il l'appelle explosion de chaleur dans ma noire Sibérie. Ouais. C'est quand même super beau. Ouais.
Bernard Isler, comment avez-vous fait pour la dessiner, cette Jeanne, ce personnage central de la vie de Baudelaire?
C'est une histoire fabuleuse, Jeanne, parce que déjà au départ, je me disais, tiens, est-ce que les femmes aiment Baudelaire déjà? Donc j'ai essayé de lire des choses sur des féministes, qu'est-ce qu'elles avaient comme regard sur Baudelaire, puis j'ai découvert qu'en fait il y avait des tas de femmes qui trouvaient très intéressant le rapport de Baudelaire aux femmes, et à travers ce regard j'ai voulu en savoir plus sur Jeanne, d'où elle vient, c'est-à-dire qu'elle est, on ne sait pas quand elle est née, on ne sait pas quand elle est morte, on sait très peu de choses d'elle, vu que tout ce qu'elle a écrit comme billet, elle a sans doute eu une certaine littérature avec Baudelaire, eh bien, toutes ces lettres ont été recueillies par la mère de Baudelaire à la mort de Charles, et la mère les a brûlées. Oui. Donc il n'y a plus aucune source. Et je suis parti justement de ce point de vue-là pour dire, bon, bah oui, elle avait un gros défaut, c'est qu'elle était une mulâtresse. Donc elle est un peu l'invisible de l'époque, elle va, comment dire, véhiculer tous les préjugés racistes, sexistes de l'époque. Et forcément, sa mère a passé, la mère de Charles a passé son temps à dire que c'était la Vénus noire, qu'elle était vraiment la pire, le monstre, etc.
L'intégrale des cahiers dessinés d'Isler vient de paraître chez Dupuis. La version télé de la librairie francophone, ce sera aussi dimanche 6 juin à midi en France, Suisse et Belgique. Et ensuite, sur tout le réseau mondial de TV5.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et depuis nos studios de Genève, on retrouve l'écrivain Harry Koumrouyan. Bonjour Harry.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous dans la librairie francophone pour la première fois. Vous publiez « Courir dans les vagues » aux éditions de l'Air, un gros roman plein de personnages qui tourne autour d'un jeune de 17 ans, bon élève, plutôt discret, qui souffre d'un manque paternel. Il ne connaît pas son père. C'est cela qui l'a enfermé comme ça dans une sorte de mutisme ?
Oui, tout à fait. Longtemps, il ne s'en est pas tellement préoccupé. Il avait une photo de son père.
il a vécu avec sa mère qui s'est très bien occupée de lui, qui est une femme de tête. Puis à un moment donné, un peu poussé par ses copains qui lui disent « mais tu dis jamais rien mm-hmm. », il va commencer à le rechercher, sans que sa mère soit tellement d'accord d'ailleurs.
Mais alors il va partir quand même à sa recherche, hein, ce garçon, avec au début les réticences de sa mère, puis les encouragements enfin. Il va devoir comme ça quitter Genève pour New York et affronter ses peurs. Quelle vérité est-il susceptible de devoir affronter ?
Alors, il risque d'affronter plusieurs vérités. D'abord, le fait de ne pas trouver le père, parce que la mère n'a plus de contact avec lui, donc il y a une recherche tout à fait concrète. Et puis aussi le fait que le père, s'il le retrouve, pourrait, à la fin du compte, le rejeter. Donc il ne sait pas au-devant de quoi il va, et ça va être une longue aventure.
Alors, ce parcours initiatique est comme une course dans les vagues, avec à chaque fois des découvertes qui peuvent bouleverser sa vie. Votre livre est un roman qui frôle le polar et aussi un peu le roman d'espionnage. Il va fantasmer, en fait, l'histoire de son père. On a tous ce besoin, vous pensez, de s'imaginer comme ça une histoire familiale plus exaltante?
Oui, je crois qu'on reconstruit toujours l'histoire de ses parents avant notre naissance, par exemple. Et puis après, on essaye toujours de se dire qu'on aurait pu avoir peut-être d'autres parents et vivre une autre vie. Alors lui, évidemment, c'est à partir de rien. Donc l'horizon est ouvert, mais le danger est ouvert aussi.
Ouais. Alors le danger, il y en a. Et on va voir si ce livre est dangereux pour vous, Harry, avec nos libraires tout de suite. Il y a la Belgique, le Canada et la Suisse qui l'ont lu. On commence par qui, Harry ?
Oh, par le Canada.
Allez, allons-y, le Canada. Katia Courteau.
Oui, alors, écoutez, j'ai pas été tout à fait convaincue dès le début de ma lecture, entre autres parce que j'étais pas certaine si ce roman s'adressait aux adolescents plutôt qu'aux adultes, vu le ton et le sujet. Mm-hmm. Par la suite, l'intrigue s'installe et nous pousse un peu plus en avant, c'est vrai. Alors, j'ai tout de même aimé, je vous dirais, votre personnage et sa ténacité touchante à retrouver son père, voilà.
D'accord. Allez, on va aller en Suisse. Dominique Bressoux, êtes-vous d'accord avec votre collègue ?
Oui, assez, en fait. Moi, je trouve qu'il y a des romans plus visuels que d'autres. Et le vôtre, donc, M. Combrouillan, fait clairement partie de ces livres où les images se succèdent un peu comme dans un film. De ce fait, il a un peu, pour moi, les défauts de ses qualités. Beaucoup de personnages assimilables à des figurants et des descriptions tellement précises qu'elles frustrent notre imagination à la lecture. Mais, au final, on se laisse prendre et il y a un réel suspense bien mené.
Oui, il y a du suspense et c'est un grand roman dans le sens où il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de petites parties comme ça cachées. La Belgique, Déborah Damblon, vous en pensez quoi ?
Ben, moi, je dois vous avouer que, comme mes camarades, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour entrer dans votre roman, comme si chaque fois je devais lutter pour ne pas me perdre dans les digressions, les incises, et me concentrer pour arriver à trouver l'information essentielle qui se cachait dans tous ces étours. Et puis, j'ai trouvé une tactique, hein, chacun trouve sa tactique. Je me suis lu votre roman à voix haute, là, ben, il a sonné autrement. Et puis, c'est peut-être ça, je trouve, la leçon à tirer, c'est que certaines choses sont bien meilleurs quand on prend le temps.
Tiens, c'est une bonne question, ça, à poser à Harry Combrouillan. Vous avez relu certains passages à voix haute quand vous les avez écrits, vous ?
Alors, pas seulement certains passages, le tout. Au fur et à mesure où j'écrivais, je le lisais à haute voix, j'avais envie de voir comment ça sonnait.
Donc,
effectivement, je pense que la lecture à voix haute, elle est très importante.
Bon, il va falloir l'adapter, en fait, ce roman.
On pourrait l'adapter.
Mais oui, il faut. Alors en tout cas, vous posez une réflexion centrale, Harry Combrouillan, sur la construction de nos vies. C'est très intéressant parce que vous écrivez à un moment, on croit toujours qu'une vie se construit. Mais elle dépend aussi du seul hasard, de la succession d'événements dont il est inutile de chercher la logique.
Oui, je pense que c'est intéressant. Dans la vie, on rencontre des embranchements et ces embranchements sont pas toujours prévisibles. Donc là, il y a une part de hasard. Et puis, il y a aussi une part de hasard dans la fiction. C'est-à-dire que l'auteur peut décider de tourner à gauche, tourner à droite,
comme il
a envie.
C'est ce qu'il fait, ouais. Et c'est ce qu'on fait dans nos vies, en fait, en substance. Donc, vous laissez entendre que même si on choisit certains chemins, il y a toujours des carrefours qui amènent à d'autres croisements. Et ces croisements, parfois, ils amènent à un boulevard ou à une impasse. C'est ce qu'on voit avec vos personnages.
Et je pense que c'est comme ça qu'on construit aussi un roman. Et c'est aussi pour ça qu'il y a tellement de personnages dans le roman. Mmh. Parce que j'avais envie qu'il y ait un substrat, que ce soit pas seulement un protagoniste ou l'autre, mais qu'il ait autour de lui ce qu'on a dans nos vies, c'est-à-dire des gens qu'on aime, qu'on aime moins, qui nous aident, qui nous aident pas, mais qui, quelque part, jouent un rôle. Lointain, parfois, mais qui jouent un rôle.
Vous pensez qu'on ne maîtrise pas la construction de nos vies ?
Je pense qu'on la maîtrise pas complètement. Mmh. Et j'ai envie de dire que c'est heureux, parfois. On a parfois des idées fausses sur ce qu'on devrait faire. On n'a pas le choix, effectivement.
Mais en fait, c'est vrai qu'on n'arrive jamais à ce qu'on voudrait avoir. Que ce soit dans le sens positif ou négatif, il se passe toujours des choses dans nos vies qui sont improbables et qui surgissent et qui font que, au final, on se dit, bah tiens, on est arrivé là, mais on l'a pas voulu.
C'est-à-dire que souvent l'horizon recule, et c'est ce qui arrive au protagoniste de ce livre, Simon. Il est d'abord à Genève, et puis après il arrive à New York, puis après il arrive à Buffalo, au bord du lac Erie, et l'horizon recule. Il y a la rivière Niagara qui sépare les États-Unis du Canada, et puis l'horizon est toujours plus loin, et la fin reste ouverte.
Et la fin reste ouverte, mais c'est un roman polyphonique aussi, Harry, parce que c'est très cinématographique. Alors on disait, vous pouvez l'adapter, mais c'est vrai que moi, ça m'a fait penser à Claude Lelouch parfois. Vous dessinez comme ça les destins de plein de personnages, et on remarque qu'ils portent tous un thème universel. Il y a par exemple le deuil après la perte d'un enfant chez un personnage, il y a la migration et la perte d'identité chez l'autre, la maltraitance aussi, l'illusion de la célébrité avec une sorte de Dolly Parton complètement haute en couleur. C'est comme si vous vouliez montrer que chacun d'entre nous porte une part de la douleur humaine.
Oui, et chacun de nous porte aussi une autre identité. C'est pour ça que dans le livre, il y a un personnage qui change de nom. Oui. Il y a aussi la traductrice, puisque la mère de Simon est traductrice, c'est-à-dire qu'il change de langue. Donc il y a une espèce de cohabitation comme ça entre qui on est, qui on pourrait être, ou dans quelle langue on lit, dans quelle langue on pourrait traduire. Voilà, c'est une espèce de rencontre d'une certaine façon. Et ça enrichit la vie, ça la rend plus dangereuse parfois, mais ça l'enrichit.
Vous parlez un peu de vous dans ce livre, Harry Koumourian, parce que il est question de Genève, et comme vous êtes un auteur suisse, il y a de la nostalgie, il y a quelques repères aussi géographiques dans Genève, de l'admiration aussi.
Alors, c'est pas du tout un récit autobiographique.
Non, oui.
Mais on imagine. Même si j'ai vécu à Buffalo à un moment donné dans ma vie, mais à Genève, c'est le décor relativement simple puisque j'y vis. Mmh. Mais c'est aussi un lieu de cohabitation entre les expatriés qui travaillent aux Nations Unies, la Genève patricienne des beaux quartiers, la Genève populaire de la rue Leschaud où habitent les personnages. Donc, d'une certaine façon, c'est une petite ville, mais c'est une ville assez polyphonique.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est cosmopolite aussi. Qu'est-ce qui vous fascine le plus à Genève, vous ?
Écoutez, je crois que c'est la cohabitation. Je pense que c'est une ville qui a réussi sa cohabitation entre différents peuples, même si, au fond, ils s'ignorent. Par exemple, je crois que les étrangers qui travaillent dans les organisations internationales connaissent peu les Suisses leur ouvrent peu leurs portes. Mmh. Mais malgré tout, ça reste, de ce point de vue-là, un endroit intéressant, parce que, voilà, il y a beaucoup de gens venus d'horizons divers.
Et ça rejoint, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure avec Patrick Chamoiseau. Courir dans les vagues. Merci beaucoup, Harry Koumourian, merci à vous.
Merci à vous.
Votre roman est paru aux éditions de l'Air. On termine avec un titre francophone de l'outre-mer. Aujourd'hui, on écoute le groupe belge Sage comme des sauvages en duo avec le réunionnais Daniel Warraud.
Amis, soigne ma peur et mon courage. La vie a mordu mon cœur et mon courage. Toi, mon médicament, sois mon médicament. Mais pas mes sentiments. Toi, mon médicament.
Un extrait du goût de la fumée interprété par le groupe Sage comme des sauvages et Daniel Warraud. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Kevin Pelot et Pierre-Yves Derolin à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Juliette Drone en France, Nicolas Julliard et Sophie Gricoucho en Suisse, René Mikils avec Valérie Lput en Belgique, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada.